Mathias Sénard.
Exploration des moteurs, des engrenages de la littérature d'aujourd'hui. Écoutons le concert des bielles de la fiction, les pistons du récit. Tour à tour, autrices, traducteurs, mais aussi dessinatrices ou scénaristes de bande dessinée nous font visiter leur salle des machines. Nous ouvrent le capot de leurs livres et nous expliquent comment tels et ils plongent les mains dans le cambouis. De quelle façon on met à la voile, ou même, de temps en temps, à la rame. Comme disait Blaise Cendrars à bord du paquebot Normandie, je les verrai à l'œuvre dans les fonds, les soutiers, les huileurs, les graisseurs, les mécanos, tous les gars de la machine. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une salle des machines de destin face à l'histoire. Destin d'une Algérienne qui bruit sans silence dans la discrétion de Faïza Ghen tout d'abord, puis destin de la noblesse sicilienne du Risorgimento au cœur du Guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, notre caillou dans les poches de cette semaine, et enfin destin bruyant, assourdissant même que celui de Napoléon Bonaparte, qui fit la France autant que la France le fit, envisagé par Philippe Forest. Et pour terminer, c'est Wynka Van Ecke, autrice de « Des kilomètres à la ronde », qui lancera son message à la salle des machines.
Je vais à Alger et j'habite donc chez Jacques Vergès et Jamila Bouhired, qui était l'épouse de mon oncle.
Qui est-elle ? Qui alors, est-il ?
Jamila Bouhired, c'est une grande héroïne de la lutte pour l'indépendance nationale. C'était une jeune femme qui s'engage dans la lutte armée, dans la bataille d'Alger, qui sera arrêtée par les parachutistes, blessée, torturée, condamnée à mort. Jacques Vergès va la défendre. Elle est condamnée à mort et elle sera, comme la plupart des femmes algériennes condamnées à mort, elle restera plusieurs mois en prison. Elle sera graciée à la fin de la guerre.
Faïza Ghen, bonjour. Votre roman La Discrétion est dédié, entre autres, à Jamila Bouhired, dont Françoise Vergès, la nièce de Jacques Vergès, vient de nous raconter l'histoire, au micro de Nejma Bouakra pour l'émission À voix nue de France Culture. Que représente Jamila Bouhired pour l'héroïne de votre roman et pour vous ?
Bah bonjour, je suis contente que ça commence par là, parce que c'est une femme, Jamila Bouhired, qui est importante à la fois pour moi et pour le personnage principal de mon roman, Yamina. Elle incarne en fait une valeur très importante que j'ai voulu mettre en avant à travers ce personnage, c'est celle de la résistance. Et je voyais pas comment trouver une plus belle incarnation. Ça a été une figure très importante pour moi dans mon éducation et puis depuis un certain nombre d'années maintenant, comme une figure qui a éclairé beaucoup de choses pour moi dans mon histoire.
Faïza Ghen, vous êtes une romancière consacrée. Vous publiez aujourd'hui votre 6e roman, après notamment La bombe de Kif Kif Demain, paru en 2004, qui vous avait valu une célébrité immédiate, ou le très beau Un homme, ça ne pleure pas, paru en 2014, qui était peut-être le livre du père ou des pères. Et aujourd'hui, aux éditions Plomb, paraît La Discrétion, le roman qui sait de la mère ou des mères.
Oui, c'est vrai que Un homme, ça ne pleure pas, ce roman, c'était une lettre adressée au père. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une étape du chemin pour en arriver à enfin adresser cette lettre à la mère, aux mères, à ma mère. Parce que c'est comme, vous savez, l'arbre qui cache la forêt. J'ai l'impression que l'arbre, c'était le père et que la forêt, c'est la mère, en fait. Parce qu'il y a encore davantage de choses à révéler et à dire à ce sujet-là, pour moi. Parce que je pense que les mères de la génération de ma mère et du personnage de mon roman, c'est encore plus des personnages qui ont peu parlé, qui ont été assez invisibilisés. Et donc, c'était une quête encore un peu plus profonde pour moi d'aller raconter cette histoire.
l'histoire de cette génération. Donc, Yamina, l'héroïne de votre roman, est née en 1949, donc encore dans l'Algérie coloniale. Elle naît à Msirda Fouaga, aux environs de Tlemcen, en 1956. Et puis ensuite, un premier exil au Maroc jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en 1962. Et puis, une installation de retour à Msirda Fouaga et à Reine Kerhal, toujours dans l'ouest de l'Algérie, à peu près à mi-chemin entre Oran et la frontière marocaine. Et ce n'est qu'en 1981 qu'elle immigrera en France. Est-ce qu'il y a pour vous, dans la construction de ce personnage, une partie autobiographique ?
Oui, absolument. La partie qui se passe donc à cette période-là que vous décrivez, c'est beaucoup des anecdotes et des histoires que je suis allée collecter auprès de ma propre maman. Donc ça a été une sorte d'enquête intime là pour raconter cette période, parce que ça m'intéressait, bon, d'abord de faire ce travail pour comprendre aussi. Ça a l'air un peu, je l'ai dit de manière un peu triviale, mais d'où je viens, du point de vue intime. C'était pour moi important de le comprendre avant de continuer le parcours de cette femme. Donc, en effet, toute la partie sur la guerre, et je vais vous dire même la première fois que j'écris sur la partie algérienne du passé, c'est suite à une question que je pose à ma mère, qui a l'air d'être une question assez simple, qui est la suivante. Maman, raconte-moi ton premier souvenir d'enfance. Et j'ai été assez estomaquée de la réponse de ma mère, qui me raconte une scène du roman qui est... Donc elle, enfant, environ 4-5 ans, qui voit les soldats français entrer dans la maison et l'un d'entre eux pointer son arme, sa mitraillette, sur le front de son petit frère qui était bébé dans les bras du grand-père. Et je trouvais que c'était fou d'avoir comme souvenir originel, en fait, cette scène qui est assez épouvantable et incroyable, quoi. Donc à partir de là, je me suis dit, il y a beaucoup, beaucoup de choses à creuser, parce qu'en plus, elle me l'a raconté d'une manière comme si elle voulait balayer, en fait, comme si elle se rendait pas compte de l'importance de cette scène pour moi qui est fondatrice.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie donc d'explorer ces récits et d'explorer et de construire ce personnage de Yamina ?
Je dois avouer que à partir d'Un homme, ça ne pleure pas, le roman que j'ai publié en 2014, j'ai eu l'impression d'être à un carrefour et de comprendre enfin ce qui m'habitait depuis longtemps, je crois, mais vraiment raconter les histoires auxquelles moi j'ai accès et dont j'ai le sentiment qu'elles sont pas racontées et qu'elles méritent de l'être, et de collecter cette mémoire-là, ça me paraissait vraiment important. Après, dans ma vie personnelle, moi j'ai perdu mon papa en 2013, à qui aussi je dédie ce roman, et j'ai pris conscience que un gros morceau de notre histoire, en fait, commune, s'en aller avec cette génération de Chibani qui disparaissait petit à petit. Et j'ai senti qu'il fallait aller chercher des choses avant qu'elles s'effacent. Et c'est une obsession chez moi, je dois avouer, que de collecter cette mémoire, ce que j'appelle la mémoire en fragments, et de recomposer un peu ces morceaux.
Donc Yamina s'installe en banlieue parisienne à Aubervilliers en 1981, et puis on va suivre par des chapitres intercalés, hein, c'est un peu un chapitre du passé algérien, un chapitre du présent français, sa vie et celle de ses enfants, Malika, Anna, Iman et Omar, qui est l'homme un peu, hein, puisque le père est quand même assez absent, qui représente un peu le seul personnage masculin très présent dans le livre.
Absolument, et il y a une certaine idée de ce que c'est la masculinité et la virilité, parce que c'est aussi des choses dont il hérite, et d'une certaine façon, il compose avec ce que c'est aujourd'hui d'être un homme pour lui, et d'être un garçon arabe sans se conformer à l'image qu'on attend de lui. Et qu'est-ce que c'est d'être le fils d'un homme comme son père, qui a été un émigré de la première génération, qui est descendu à la mine à 16 ans. Et c'est quoi aujourd'hui par rapport à cet homme qui a l'air de jauger, en fait, la virilité par rapport au sacrifice fait et par rapport à la dureté de la vie pour ce jeune garçon de 29 ans qu'on prend dans un moment où il a l'impression de mener une vie temporaire. Donc c'est aussi la confrontation, en fait la collision presque de ces deux générations à travers le personnage de Omar qui m'intéressait.
Omar, on a l'impression qu'il a un double défi, une double confrontation, à la fois, bien sûr, son rapport, comme le reste des enfants, à la famille, à l'Algérie, à ses origines, mais aussi à s'affirmer dans sa vie actuelle, et dans son travail, et pouvoir retrouver une certaine liberté un peu en se débarrassant de ces complexes liés à son origine arabe.
Absolument, et puis lié aussi à son origine sociale, c'est-à-dire que je le dis parce que pour moi ça me paraît très important, c'est des défis bon de sa génération d'abord avant tout, c'est les défis d'un garçon avec ses manières de pauvre qui est issu d'une famille modeste et toutes les questions d'identité de ce garçon arabe se rajoutent en fait. Donc c'est une manière de dire aussi que les défis se multiplient pour lui et ça me paraissait aussi important de raconter à travers son personnage comment aussi l'histoire se reflète à des endroits auxquels on s'attend pas forcément, c'est-à-dire que l'histoire des parents, cette culture et cette histoire vont aller aussi frapper à des endroits assez intimes finalement, le rapport aux femmes, la construction de cette vision de ce que c'est l'amour pour lui, etc. Donc vraiment, j'avais envie avec lui d'aller dans des recoins inattendus.
Et Omar, il a aussi cette donc pour lui, le symbole un peu de tout ce qu'il n'est pas, c'est l'hôtel Lutetia à Saint-Germain-des-Prés. Et je trouvais ça très beau, cette façon de symboliser, ou en tout cas de représenter cette société dans laquelle il a peur d'entrer, qui l'impressionne par cet hôtel aussi prestigieux et historique.
Absolument. Le Lutetia, c'est vraiment la zone qui représente ce qui ne s'autoriserait jamais. Vous savez, pour moi, il y a une phrase qui... Je me rappelle... au moment même où je l'ai écrite, que je m'étais dit, c'est exactement ça que je veux raconter avec lui. C'est cette phrase qui dit « Ils n'ont pas besoin de nous exclure, nous le faisons très bien nous-mêmes ». À quel point c'est encore plus complexe et plus profond que simplement nous voir refuser l'accès à. C'est pas simplement recevoir une lettre suite à un CV en nous disant « Vous n'êtes pas accepté ». C'est pas simplement un vigile qui vous dit à l'entrée d'une boîte de nuit qui vous refuse l'entrée. C'est encore plus insidieux que ça. C'est-à-dire que ce clivage social, finalement, il est intériorisé. Et c'est ça que je trouve qui est délicat et qui est difficile à comprendre et à raconter, peut-être.
En tout cas, vous le racontez parfaitement. Et Omar a aussi ce côté, c'est bien sûr le fils de sa mère, et sa mère le protège. Il y a aussi une scène très belle qui est celle du lait, où ses sœurs sont à la fois jalouses et se moquent gentiment de lui, parce que sa mère, alors qu'il approche de la trentaine, souffle encore sur son lait pour le refroidir et qu'il ne se brûle pas.
Oui, alors là, c'est vraiment... Ce que je dis de ce personnage, finalement, c'est qu'il échappe miraculeusement à la caricature du garçon, du tyran égocentrique, parce que tout est fait pour qu'il en devienne un. Et c'est vrai qu'il y a le rapport à la mère. Bon, en fait, qu'un rapport assez classique, j'invente rien, en fait. Mais ce qui m'intéresse là, c'est l'écart entre l'intérieur du foyer, le fait que ce soit un garçon choyé, et puis la réalité à laquelle il est confronté dès lors qu'il sort de la maison. Et quand je dis... il est né sur un trône, mais dehors, il ne sera jamais roi. Je pense que cette espèce de distorsion, c'est aussi une source de complexité pour lui, quoi.
Oui, et dans son rapport avec ses sœurs aussi, on a l'impression que cette famille compose un éventail, comme si vous aviez voulu donner un peu à chacun un rôle pour donner un portrait plus large, un peu des possibilités d'être à la fois fille, arabe et avoir grandi en banlieue.
Oui, à la fois ce sont des archétypes tous les quatre et à la fois ils sont très singuliers de par leur parcours et leur sensibilité aussi. Moi j'ai eu le sentiment en fait de diviser des morceaux de moi à travers ces personnages. On m'a souvent posé la question de laquelle des filles je me sentais le plus proche. Et peut-être que je me sens davantage proche d'Omar que de Malika ou d'Imane, finalement, parce que il y a aussi cette particularité. Ce qui le rend si singulier, lui, c'est pas finalement son parcours ou l'histoire de ses parents, qui est quand même une histoire commune, qui est partagée par beaucoup de familles, mais c'est lui, avec sa sensibilité, qui trouve pas sa place, finalement, dans cette histoire complètement.
Et quand même, c'est que celle qui gouverne le livre, qui en est la reine, c'est le personnage de Yabina, puisque c'est quand même sa vie qu'on retrouve dans tous les chapitres alternés. Donc depuis, on l'a dit tout à l'heure, sa petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Donc Yabina, elle est pieuse, elle est musulmane, elle prie, et elle est arrivée à Paris, en tout cas en banlieue, assez tard, alors qu'elle avait déjà une trentaine d'années, et vous décrivez ce déplacement comme un arrachement.
Absolument. On parle d'immigration souvent comme si des gens n'avaient pas peine à abandonner des choses, n'avaient pas peine à reconstruire, n'avaient pas peine à se déchirer à l'intérieur. Mais l'exil, pour moi, c'est toujours une histoire triste. L'exil contraint, d'une certaine façon, c'est toujours une histoire triste, c'est toujours une histoire d'abandon. C'est un vrai déchirement pour elle, Yabina, et cette fracture-là, elle va traverser toute sa vie. Je dis souvent que pour ces gens, ce qui est dur à vivre, c'est le sentiment de tout abandonner alors même qu'ils ne possèdent rien. C'est ça qui est compliqué à envisager, mais je crois qu'ils abandonnent énormément de choses d'eux-mêmes pour pouvoir bâtir une vie, et pas une vie définitive, c'est-à-dire on s'en va pas en se disant « je pars pour toujours », on s'en va avec cette espèce de mythe et de fantasme du retour. Et on met un certain temps avant d'abandonner aussi cette idée du retour. Ça fait partie des choses qu'on abandonne encore.
Et qu'est-ce qui se transmet donc de cette déchirure, de cet exil, de cette mélancolie aux générations suivantes ?
Ben là, vous me l'enlevez de la bouche. Moi, j'allais dire justement, ce que j'ai le sentiment qu'il se transmet une grande mélancolie. Et pour les enfants, c'est compliqué de comprendre d'où elle vient, cette tristesse et cette mélancolie, en fait, qui nous appartient pas, elle appartient à nos parents, en fait. Mais comme ce manque de reconnaissance dont je parle dans le roman, cette espèce d'offense dont je parle dans le roman, offense qui a été faite à leur génération, l'offense de l'oubli, l'offense du silence, l'offense de l'humiliation, etc., ça renforce ce sentiment-là de cette mélancolie, en fait.
Est-ce que ce sentiment d'exil et de mélancolie, il n'est pas aussi amplifié par le fait que les Français qu'elle côtoie en arrivant à Aubervilliers et par la suite n'ont aucune idée de la réalité dont elle provient et n'ont aucune idée de ce qu'était sa vie antérieure, et donc elle est comme si elle était un espèce de fantôme sans réalité derrière elle.
Absolument, c'est bien dit, parce que en fait, ce que vous soulevez, c'est cette question de la consistance d'une existence, en fait, qui est extraordinaire au sens premier du terme. C'est une femme, je sais pas comment dire, elle est ignorée, cette consistance-là, en fait, cette force-là, elle est ignorée, j'ai le sentiment qu'il y a un endroit où l'injustice, elle prend racine là. Non seulement se sentir incompris dans l'absolu, c'est difficile, mais ignorer, c'est encore autre chose. Ignorer, ça veut dire qu'on n'a même pas idée de ce que cette femme a pu traverser, et puis qu'on la met dans une catégorie comme ça. Voilà, pour moi, ce roman, c'est aussi un des objectifs, si je dois en donner un. Je m'étais dit, j'aimerais vraiment que des gens qui n'ont pas forcément idée de l'histoire de cette femme, de ce que c'est justement l'exil, de ce que c'est qu'être un héritier de cet exil, de cette mémoire fragmentée, j'aimerais que pour ces gens qui éventuellement liront le livre, ce soit une manière de plus jamais regarder ces femmes de la même façon. Ce soit une occasion, en tout cas, d'entrevoir cette consistance dont je parle, cette force.
Cette mémoire fragmentée et cette force vient aussi peut-être du fait que c'est aussi un exode rural, c'est-à-dire que ce qu'elle quitte aussi pour arriver à Paris, et ça vous le montrez très bien dans sa passion pour le petit jardin partagé, qu'elle retrouve, ce qu'elle quitte aussi, c'est la vie rurale pour arriver en banlieue. Donc c'est aussi un double exil, c'est l'exode rural et l'exil en France.
Exactement, et en fait c'est une femme qui a quitté sa terre au sens premier, elle a quitté la terre aussi. Et c'est difficile d'arriver à Aubervilliers quand on a couru, qu'on a gambadé dans les pentes de Msir d'Afouaga à l'ouest de l'Algérie. Ça fait partie de ce déchirement.
Et donc il y a une réparation dans ce jardin qu'elle va cultiver, et surtout dont elle va récolter les figues, qui est un de ces traits d'union entre le nord et le sud, très beau, que vous utilisez presque comme un symbole dans le roman.
C'est marrant parce que cette histoire du figuier, en fait, moi, ça fait partie des petits miracles qui se produisent pendant l'écriture d'un roman. J'ai raconté cette scène de Yamina enfant avec ce figuier quand elle est petite, etc. Et qu'ils doivent quitter l'Algérie pour rejoindre le Maroc et qu'elle abandonne son figuier derrière elle en disant elle a déjà compris qu'on ne peut pas déraciner un arbre. Et en fait, ce figuier, c'est le figuier de mon enfance à moi quand on allait en vacances avec mes parents dans le temps et qu'on passait un mois sur les terres de mes ancêtres. Donc, et il y avait un figuier et ce figuier, c'est moi qui grimpais quand j'étais petite. Et donc, je l'ai fait exister à travers Yamina, là. Et en fait, je me suis rendu compte, pendant que j'écrivais, l'absurdité de pas avoir vu, de pas m'être rendu compte qu'il y avait un figuier dans le jardin ouvrier de ma mère, qui a jardine dans ce jardin ouvrier. Et le lien est apparu comme, je sais pas comment dire, c'était miraculeux. Je me suis dit, mais comment j'ai pas fait le lien avant? Il est arrivé vraiment au fil de la plume, ce lien-là, finalement, alors qu'il a l'air très évident, comme si c'était depuis le départ, comme si presque c'était un lien qui était fondateur du roman. C'est presque le fil rouge. Avec l'enracinement, etc. Donc il y a vraiment quelque chose d'évident qui est apparu pendant l'écriture avec ce figuier.
Ce qui est passionnant aussi dans cette construction de l'image de l'autre, c'est son rapport avec les chiens de l'immeuble, Yamina. Et surtout parce qu'on se rend compte que les voisins ne comprennent pas du tout. Ils interprètent très mal le fait qu'elle ne peut pas toucher un chien, tout ça parce qu'ils comprennent pas justement la question des ablutions, de la prière. C'est pas du tout parce qu'elle en a peur. Et ça montre bien justement que cette question de la différence et comment on peut méconnaître l'autre et que cette méconnaissance nous amène à une violence.
Je pense que ça pose toute la question de vivre ensemble sans se rencontrer. Vivre pas ensemble plutôt, mais les uns à côté des autres. Et j'avais envie de questionner cette chose de pourquoi on ne peut pas avoir ce dialogue-là. Qu'est-ce qui rend ce dialogue impossible aujourd'hui? Qu'est-ce qui empêche cette femme de 70 ans, qui a des très bons rapports par ailleurs avec ses voisins, de leur expliquer que si le chien renifle sa robe, elle ne peut pas prier? Parce que ça annulerait ses ablutions. En fait, ce qui est quelque chose d'informatif, qui est pas, ça prête pas à un débat, c'est une chose qui est factuelle, qu'elle pourrait leur dire. Et qu'est-ce qui rend ce dialogue impossible aujourd'hui? Est-ce que d'ailleurs, ce dialogue aurait été possible 20 ans en arrière? Et ça soulève aussi la question, je sais pas comment le formuler, mais comme d'une forme de paresse de la part de ses voisins, finalement, de pas essayer de comprendre davantage comment vit cette femme. Et que c'est toujours leur regard et leur manière de vivre qui domine finalement, qui prend le dessus et qui devient la façon de vivre officielle à laquelle on doit adhérer si on veut faire partie de cet ensemble-là. Et il me semble que c'est des petites choses qui ont l'air anodines, ordinaires, mais que en les soulevant, ça raconte le rapport finalement. Parce que ce que je dis dans cette scène avec les voisins, c'est que Yamina, elle les connaît, ses voisins. Elle sait qui ils sont, elle sait comment ils vivent, elle n'est pas toujours d'accord. D'ailleurs, de son côté aussi, il y a des incompréhensions, parce que on n'a pas les mêmes visions et pas les mêmes façons de vivre, etc. Mais elle les accepte. Et alors, elle n'est même pas à l'endroit où elle doit justifier ou expliquer sa façon de vivre. Elle est à l'endroit où elle n'a même pas cette possibilité-là.
En même temps, une possibilité de rencontrer ses voisins avec le temps, on a l'impression qu'elle s'efface presque dans l'habitude, que c'est on a toujours été comme ça, on ne sait jamais ni les voisins se sont intéressés pour savoir ce qu'elle était, mais elle non plus, elle est restée quand même un peu aussi celle qui est arrivée en 1981 avec ce qu'elle amenait derrière elle. Donc, est-ce que c'est si simple que ça finalement d'un côté ou de l'autre? Est-ce que c'est pas, ce serait pas justement à la génération des enfants hein, aussi de faire ce lien un peu entre cette génération de Yamina et une possible compréhension plus simple avec les voisins, pour le dire dans les termes du roman?
Moi, j'ai le sentiment que justement, cette espèce de repli dans lequel Yamina se trouve, de son côté à elle, en fait, elle est cohérente parce que depuis le début, Yamina, c'est quelqu'un qui s'efface, qui ne veut pas déranger, qui ne veut pas prendre de place. Vous savez, quand vous restez pas longtemps, quand c'est voué à prendre fin, on va pas forcément prendre le temps d'expliquer ou d'aménager les choses de façon à prendre sa place. Et c'est vrai que les enfants, eux, À la différence de Yamina, ils comprennent vite finalement qu'ils sont là et qu'ils sont chez eux. Et aussi, ils sont les ambassadeurs finalement d'une génération qui n'a pas parlé, qui n'a pas exprimé sa colère. Et ça fait une charge qui est assez énorme. Et donc, il y a aussi une forme de lassitude de leur part. Parce que Anna, sa fille cadette, elle dit « ça suffit maintenant. Nous, depuis le temps qu'on est là, on a appris à les connaître. On fait les efforts tout le temps de notre côté d'expliquer ce qu'on fait, qui on est, pourquoi, de faire des pas, en fait, pour essayer d'appartenir. » Et tout ce mouvement assimilationniste depuis un certain nombre d'années, on voit bien finalement que ça ne rend pas les choses plus simples. Ça ne rend pas les choses plus simples. Faire accepter qui on est, c'est pas seulement le défi de leur génération, c'est le défi de l'ensemble, c'est-à-dire de ses enfants et des voisins. C'est qu'il faut que ça, enfin, il faut que ça aille dans les deux sens. C'est un peu balourd de le dire de cette façon-là, mais je crois vraiment que il y a un mouvement qui doit changer, un mouvement général qui doit changer.
Et est-ce que vous pensez que dans ce mouvement général ou ce changement, le roman, la littérature et le roman en particulier a quelque chose à jouer?
Bien sûr, parce que je pense pas que la mission d'un roman ce soit de donner des prérogatives pour que les choses évoluent dans la société. Moi, j'ai le sentiment que on est loin de ça. On est d'abord dans l'étape où on va raconter des histoires qui ne se racontent pas. Moi, j'ai le sentiment de raconter quelque chose de l'intérieur et donc de faire apparaître aux yeux du monde des personnages. Enfin, je pense pas qu'à mon roman, il y a une génération avant moi que je n'oublie pas. Il y a des gens comme Mehdi Sharef depuis longtemps qui essayent en fait de raconter de l'intérieur et de parler à des gens qui ne s'identifient que très peu à ce qu'ils lisent ou à ce qu'ils voient ou à ce qu'ils voilà peuvent regarder au cinéma par exemple ou dans d'autres. Et il y a d'abord se reconnaître. Se reconnaître, c'est quelque chose de pour moi d'extrêmement important. Se reconnaître sans se séparer des autres, en gardant cet espoir et ce sentiment qu'on peut se comprendre. Je sais que c'est un peu naïf, j'en ai conscience en le disant, mais je crois que une des missions de la littérature, c'est trouver à se reconnaître.
Se reconnaître et montrer aux yeux du monde. Un beau projet pour la littérature. Merci beaucoup, Faïza Guen. Merci de nous avoir ouvert votre discrétion.
Merci à vous.
Et d'être venue dans la salle des machines. Discrétion dont je rappelle qu'elle est parue aux éditions Plomb. Amateur de Stendhal, mais aussi flaubertien dans son plaisir des mots et la perfection de ses phrases, Giuseppe Tomasi di Lampedusa est l'homme d'un seul livre, Le Guépard. Roman magique, publié en 1958, qui raconte les transformations de la Sicile du Risorgimento à travers le destin de Don Fabrizio, prince de Salina. Un des plus beaux personnages de l'histoire de la littérature, que la voix de Denis Podalydès fait revivre grâce à la traduction de Jean-Paul Manganaro dans ce livre audio, paru aux éditions Audiolib.
Il laissa Bendico essoufflé par son propre dynamisme, remonta l'escalier, traversa les salons dans lesquels ses filles parlaient de leurs amis de Saint-Sauveur, à son passage la soie de leur jupe bruissa tandis qu'elles se levaient, gravit un long et étroit escalier et déboucha dans la grande lumière bleue de l'observatoire. Le père Pirone, avec l'aspect serein du prêtre qui a dit sa messe et pris un bon café avec des biscuits de Montréal, était assis, absorbé par ses formules algébriques. Les deux télescopes et les trois longues vues, aveuglés par le soleil, se tenaient couchés bien sagement, le bouchon noir sur l'oculaire, comme des bêtes bien habituées et qui savaient qu'on ne leur donnerait leur repas que le soir. La vue du prince arracha le père à ses calculs et ramena à son esprit la mauvaise impression du soir précédent. Il se leva, salua obséquieusement, mais ne put s'empêcher de dire « Votre Excellence vient se confesser ?» Don Fabrizio, à qui le sommeil et les conversations de la matinée avaient fait oublier l'épisode nocturne, s'étonna. « Me confesser ? Mais nous ne sommes pas samedi aujourd'hui. » Il ouvrit une des fenêtres de la petite tour. Le paysage étalait toutes ses beautés. Sous le ferment du soleil puissant, chaque chose semblait dépourvue de poids. La mer, dans le fond, était une tache de couleur pure. Les montagnes qui la nuit avaient paru redoutables, pleines de guet-apens, semblaient des amas de vapeurs sur le point de se dissoudre, et même la menaçante Palerme s'étendait apaisée autour de ses couvents, comme un troupeau au pied des bergers. Dans la rade, les bateaux étrangers à l'ancre, envoyés en prévision de troubles, ne parvenaient pas à introduire un sentiment de crainte dans le calme plein de stupeur. Le soleil, qui était cependant bien loin en ce matin du 13 mai de sa plus grande ardeur, se révélait comme le souverain authentique de la Sicile. Le soleil violent et impudent. Le soleil faisant l'effet aussi d'un narcotique qui annihilait les volontés individuelles et maintenait toute chose dans une immobilité servile, bercée en des rêves violents, en des violences qui tenaient de l'arbitraire des rêves.
France Culture, la salle des machines, Mathias Sénard.
Réveille-toi, ville sacrée, dans ton orgueil et ton amour, la sainte famille est rentrée, les exilés sont de retour, les exilés sont de retour, oh les voici, victoire, victoire, qu'ils soient fêtés dans sa maison, l'enfant prodigue de la gloire, Napoléon, Napoléon, l'enfant. Plus tard, après les pyramides, dans nos murs il revint encore, avec les mamelucs, les guides, l'Annemura, l'état-major, l'Annemura, l'état-major, lui portait la capote grise, le sabre turc, le chapeau rond, avec cette seule devise, Napoléon, Napoléon, avec cette seule devise, Napoléon, Napoléon. À genoux, citoyens et frères, son ombre descend parmi nous. Dans Ajaccio, sur nos pierres, citoyens, frères à genoux, citoyens. À genoux, que sur nos places, dans nos rues, l'on entende plus que ce nom, du fond du cœur jusqu'aux oreilles, Napoléon, Napoléon.
Forest, bonsoir. Vous avez reconnu cette chanson toute brûlante de ferveur impériale composée par Jean-François Costa, qui fut sous-préfet de Sartène à l'occasion de l'abrogation en 1840 seulement de la loi qui frappait d'exil les descendants de Napoléon Bonaparte, l'Ajaccienne, chantée par Tino Rossi.
Ah ben je suis impardonnable de ne pas connaître cette chanson parce que Tino Rossi était le chanteur préféré de ma mère, donc ça me semble être, pour cette raison-là, au moins un excellent choix. On aurait pu mettre Serge Lama aussi, Serge Lama qui a composé et présenté il y a bien longtemps maintenant une comédie musicale qui a été consacrée à Napoléon. Lorsque je co-dirigeais la Nouvelle Revue Française il y a quelques années, on avait fait un numéro spécial consacré aux variétés et j'étais allé interviewer Serge Lama et on avait parlé bien sûr un petit peu de Napoléon.
Philippe Vorest, vous êtes non seulement professeur de littérature et un brillant essayiste, mais aussi un romancier célébré. On vous doit le très beau Sarinagara, par exemple, en 2004, ou Le siècle des nuages, roman d'aviation, en 2010. Vous êtes un spécialiste de la revue Telle Quelle et de l'œuvre de Philippe Solers, et vous avez obtenu il y a peu le prix Goncourt de la biographie pour une magistrale biographie de Louis Aragon. Et là, ces jours-ci, surprise, Napoléon, la fin et le commencement, paraît aux éditions Gallimard. Comment vous êtes venu cette idée? Pourtant, vous n'êtes pas 19e-iste.
Pas du tout, et la surprise dont vous parlez a d'abord été la mienne, parce que je n'aurais jamais osé me lancer dans un tel projet si on ne me l'avait pas proposé. Les choses se sont passées comme ça. Rana Levy, qui dirige la collection des biographies chez Gallimard, qui donc avait publié la biographie d'Aragon à laquelle vous venez de faire allusion, me demandait depuis quelques années de lui donner un deuxième livre. Bon, aucune idée ne s'était véritablement présentée, et un jour il m'a demandé de venir le voir dans son bureau, et il m'a dit « j'ai une proposition à vous faire, mais vous allez sans doute tomber de votre siège ». Et donc la proposition, c'était celle-là. Il y a cette collection donc qui s'intitule « Des hommes qui ont fait la France », dans laquelle ont paru déjà un Jules Ferry par Mona Ozouf, un Robespierre par Marcel Gauchet, un De Gaulle par Vinocq. Et Rana Levy m'a demandé « est-ce que vous voulez faire un Napoléon ?» Alors j'ai d'abord répondu non, parce que c'était quelque chose de très éloigné de moi. Et puis je suis sorti, donc j'étais boulevard Saint-Germain, quelques minutes après, et je me suis ravisé, j'ai envoyé un texto à Rana Levy pour lui dire que finalement, pourquoi pas, parce que c'était intéressant pour moi de tenter quelque chose de très différent. Il m'avait proposé de faire éventuellement un ouvrage dans cette même collection qui aurait été consacré à un grand écrivain français, mais des ouvrages sur des écrivains, j'en ai déjà fait beaucoup, tandis que là, c'était vraiment quelque chose de neuf pour moi, donc j'ai dit oui. Je sais pas si j'ai eu raison ou si j'ai eu tort, mais enfin, en tout cas, le livre est là.
Et qu'est-ce que vous êtes imaginé quand on vous a posé cette question, que vous avez répondu par l'affirmative? Quel aspect du personnage de Napoléon vous a décidé à entreprendre cette brève biographie littéraire?
Mais justement, ça a tourné dans ma tête, tandis que je m'éloignais du bureau de Rana Levy. Je me suis dit, cette collection, elle s'intitule « Des hommes qui ont fait la France ». Alors, est-ce que Napoléon a fait la France ou pas? Je me suis dit, on pourrait très bien dire qu'il l'a défaite plutôt qu'il ne l'a faite. Et je me suis dit que peut-être il y avait moyen de raconter toute l'histoire, ce qui n'est pas très original forcément, mais qui était un angle d'attaque possible. Il y avait moyen de raconter toute cette histoire en partant de la fin, c'est-à-dire en partant de Waterloo. Et donc, à partir de là, comme ce sont des ouvrages assez minces, enfin ça fait 150 ou 200 pages je crois, il faut trouver bien sûr un moyen de revisiter la vie de Napoléon sans en proposer un récit qui serait un récit linéaire comme on en trouve partout. Et donc je me suis dit que c'était à partir de cette question de la fin et du commencement qu'on pouvait peut-être reprendre les choses, ce que j'ai fait, d'où le titre.
La fin et le commencement. Le commencement, on vient de l'entendre, hein, Ajaccio qui accueille dans la chanson de Tino Rossi, le retour de la Sainte Famille, nous dit-on, de cette famille de Bonaparte, de retour d'exil au milieu du 19e siècle. Et la fin, Waterloo. Alors évidemment, Waterloo, c'est aussi et surtout parler de littérature, puisqu'on se rend compte en vous lisant que Waterloo, c'est un des lieux communs de la littérature française et pas que au 19e siècle.
Oui, parce que il fallait aussi que j'aborde les choses d'une manière qui ne m'était pas totalement étrangère. Donc c'est essentiellement ce livre, un Napoléon vu au miroir des grandes œuvres littéraires du passé. Donc puisque je commence par Waterloo, je commence aussi par Victor Hugo et par les nombreuses pages que Victor Hugo a consacrées à la défaite napoléonienne. Il y a bien sûr les poèmes que l'on connaît, mais il y a surtout le passage des Misérables par lequel commence non pas le roman, mais commence l'histoire, puisque Thénardier figure sur ce champ de bataille où il va sauver la vie d'un personnage qui jouera un rôle donc dans la suite de l'histoire. Voilà. Il n'y a pas seulement Victor Hugo, il y a Stendhal aussi, il y a La Chartreuse de Parme, il y a beaucoup d'autres écrivains, mais ça me semblait important de commencer par Victor Hugo, de commencer par la fin avec Victor Hugo, disons.
Et tous ces récits, vous nous dites que ce soit Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme, Le Comte de Monte Cristo, tous ces récits, dites-vous, dépendent de manière bien sûr différente, mais dépendent du désastre de Waterloo, avec lequel la France semble se défaire et finir, et dont tous ces livres font pourtant comme s'il s'agissait aussi d'un commencement, le fondement, plus ou moins apparent, l'explicite ou implicite point de départ de leur fiction.
Oui, je m'inscris dans l'après-coup de cette défaite, comme l'ont fait tous ces écrivains et bien d'autres que vous venez de nommer. Ça n'est pas une vision, je ne peux pas le prétendre, ça n'aura aucun sens, ça n'est pas une vision tout à fait originale. Disons que c'est la vision romantique de Napoléon qui a prévalu pendant une bonne partie du 19e siècle. Hein. Écrire sur les ruines de l'Empire, donc dans le souvenir de la gloire disparue de l'Empire, soit dans la perspective de porter le deuil de cette gloire disparue, soit au contraire dans la perspective d'envisager la renaissance possible de cette même gloire. Voilà un peu le parti pris qui a été celui de la plupart des grands écrivains du 19e siècle auxquels je me réfère.
Alors qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse plus à Waterloo qu'à la campagne de Russie, par exemple? Finalement, la vraie fin de Napoléon, on pourrait aussi la dater de la Bérézina. C'est un peu le moment, en tout cas, où tout s'achève, presque.
Oui, ou la bataille d'Eylau, par exemple, ou bien sûr le crépuscule à Sainte-Hélène. Ce qui m'a intéressé, et c'est toujours ce fil directeur que j'ai essayé de suivre pour revisiter l'histoire d'une manière un peu différente. C'est une histoire qui n'en finit pas de finir et qui n'en finit pas de commencer ou de recommencer. Donc je raconte en quelque sorte les différentes manières dont l'histoire de Napoléon a fini. Et ce sont ces manières qui permettent à cette même histoire de recommencer sans cesse avec chacun de ceux qui vient rêver sur le souvenir de Napoléon. Parce qu'il y a cette question que j'aborde aussi dans un des chapitres, de savoir, et c'est la question que vous me posez en fait, quand finit l'histoire de Napoléon ? Certains prétendent que tout est fini déjà au moment où Bonaparte prend le pouvoir, hein, le coup de Brumaire. C'est en quelque sorte la thèse de Stendhal. D'autres envisagent que Napoléon trahit Bonaparte au moment où il fait assassiner le duc d'Enghien. C'est la thèse de Chateaubriand. Et puis il y a bien sûr, et c'est plutôt d'ailleurs là-dessus que Stendhal, je me trompe, insiste, la faute suprême qui a été la faute du couronnement impérial. Donc voilà, c'est une histoire qui n'en finit pas de finir et qui n'arrête pas de commencer. C'est ce que j'ai essayé de montrer.
Et vous-même, quel est le texte, en tout cas l'auteur ou la vision de Napoléon qui vous a le plus surpris ou le plus fasciné ?
Oh bah, je crois que ma préférence va quand même à Chateaubriand, parce que c'est un monument énorme que les Mémoires d'Outre-Tombe, avec ce livre à l'intérieur du livre dans lequel Chateaubriand vient raconter la vie de Napoléon et se mesurer en quelque sorte à lui. Donc je mettrai quand même à part Chateaubriand, mais j'ai lu ou relu toute une série de livres d'écrivains consacrés à Napoléon qui m'ont beaucoup intéressé, hein, disons de Léon Blois et Elifort pour le début du XXe siècle à Jean-Paul Kaufmann ou Jean-Marie Rouart pour nommer des auteurs plus récents. Mais bon, je pense que les deux écrivains qui se taillent, comme on dit, la part du lion dans le livre, ce sont Chateaubriand et Hugo.
Oui, Elifort, vous avez d'ailleurs des phrases extrêmement élogieuses pour le style d'Elifort et cette histoire de l'art, ce qui m'a donné une très forte envie de lire ces textes dont j'ignore tout.
Ah oui, c'est un très grand écrivain, enfin à sa manière en tout cas, mais moi je l'ai découvert il y a longtemps parce que, rappelez-vous, c'est lui que cite Jean-Luc Godard au début de Pierrot le Fou, quand Belmondo lit à sa petite fille qui est en train de prendre son bain, de manière totalement étrange d'ailleurs, un certain nombre de pages qui sont consacrées à Velázquez. Ça, c'est dans l'histoire de l'art de Elifort. Il y a aussi l'esprit des formes. C'est un écrivain qui admirait aussi Céline et auquel Malraux doit beaucoup. Bon, son livre sur Napoléon est complètement délirant et j'essaye de le montrer, mais Napoléon incite au délire et justifie la manière dont on peut délirer à son propos.
Et pour revenir à Chateaubriand, avant d'avancer un peu plus dans le XXe siècle, on a cette impression, en lisant les Mémoires d'Outre-Tombe, que Chateaubriand était à la fois fasciné par Napoléon, dont il ne peut pas, disons, faire l'économie, mais en même temps que pour lui, Waterloo, 1815, il est sous son arbre, en train de lire un livre, en écoutant au loin le son du canon. Finalement, il y a quand même quelque chose là-dedans qui ne le concerne pas vraiment.
Je ne sais pas vraiment si je dirais ça. Moi, ce que je souligne surtout dans le livre, c'est à quel point Chateaubriand se mesure véritablement à Napoléon. Et il n'est pas le seul. Hein. Hegel fait à peu près la même chose au moment de Iéna, mais comme si finalement il s'agissait pour les grands écrivains ou les grands penseurs de l'époque d'engager une sorte de dialogue, on pourrait même dire de face à face ou de duel avec Napoléon. Chateaubriand veut se mesurer véritablement à Napoléon. Il explique qu'il a soutenu Bonaparte au moment du consulat. Et bon, sans doute que c'est parce que Bonaparte n'a pas estimé Chateaubriand à la manière dont Chateaubriand espérait qu'il le serait, que Chateaubriand s'est progressivement écarté de Napoléon, et notamment après l'assassinat du duc d'Enghien. Mais il y a quand même cette relation très forte que l'écrivain veut nouer avec l'homme d'État. Je cite ce mot de Napoléon qui est assez amusant, je trouve, parce que Napoléon avait le sens de l'humour. Il dit « Mon problème, ce n'est pas d'acheter Monsieur de Chateaubriand, mais de le payer au prix qu'il s'estime. » Voilà. Bon, moi, je crois que ça résume un peu le malentendu qui a séparé les deux hommes, mais qui n'a jamais été tel que Chateaubriand se serait désintéressé de Napoléon, voire d'ailleurs, je sais pas, ça fait peut-être une centaine de pages selon les éditions, le long livre à l'intérieur du livre, donc, que les Mémoires d'Outre-Tombe consacrent à l'histoire de Bonaparte.
Oui, alors un autre personnage extrêmement napoléonien, bien sûr, c'est le colonel Chabert. Donc on doit aussi à Napoléon énormément de monuments de cette littérature française du 19e siècle.
Ah oui, très, très grand roman. Il y a aussi le médecin de campagne qui date à peu près de la même époque et dont je parle. Et là encore, Balzac se mesure comme Chateaubriand à Napoléon. La légende, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, raconte que Balzac possédait une statue de l'empereur sur laquelle il avait écrit « Ce qu'il n'a pu accomplir par l'épée, je l'accomplirai par la plume ». Voilà. Tous ces gens-là se rêvent en Napoléon, ils se prennent pour Napoléon. Simplement à la manière des mythomanes et des autres malades mentaux qui finissent dans les asiles, ils font de cette folie qui s'empare d'eux la base à partir de laquelle ils développent de grands livres, comme par exemple le colonel Chabert. D'ailleurs, je commence le livre en imaginant Balzac revenant à Paris et observant dans une rue du 13e arrondissement une fresque assez étrange inspirée lointainement du Napoléon de David. Voilà, donc ce sont ces écrivains que je fais en quelque sorte revenir pour raconter l'histoire à ma place ou en tout cas avec moi.
Ce qui est aussi très surprenant, c'est ce qu'on découvre, enfin en tout cas que j'ai découvert, de Sigmund Freud et de sa vision et sa lecture de Napoléon.
Oui, moi aussi j'ai découvert ça à mesure que je lisais, à mesure que je fouillais dans les documents et les archives. Il y a une lettre donc de Freud à Thomas Mann, dans laquelle... en raison du livre que Thomas Mann a consacré à la figure biblique de Joseph, Freud explique que tout le destin de Napoléon est commandé par les relations compliquées qu'il a eues avec son frère aîné Joseph, dont il a pris en quelque sorte la place, tout en éprouvant donc la culpabilité qui a été la sienne à usurper le rôle d'aîné qui en principe ne lui appartenait pas. Donc à partir de là, Freud en quelques pages propose une démonstration dont je ne sais pas si elle est très convaincante, mais qui en tout cas est assez séduisante et amusante, psychanalysant ainsi Napoléon. Ce qu'ont fait d'autres après Freud, je cite notamment un livre très oublié d'un certain René Laforgue, qui a un certain nombre de défauts, mais aussi qui permet de bien comprendre quand même ce nœud très particulier dans lequel Napoléon se trouve pris et qui va le conduire à chercher lui-même en quelque sorte une défaite qu'il aurait pu très raisonnablement éviter. C'est le complexe de l'échec tel que Laforgue notamment l'analyse en prenant appui aussi sur Freud.
Et ce qui est passionnant, et donc c'est l'ordre que vous avez choisi, le commencement à la fin d'abord, pour mieux retrouver le commencement. Et alors où commence justement Napoléon, où commence Bonaparte ?
Je cite en épigraphe du livre une phrase que j'ai beaucoup aimée, qui se trouve, c'est inattendu aussi, je pense, dans un des films de Carnet et Prévert que je préfère, même si c'est l'un des moins connus. C'est le dernier film qu'ils ont réalisé ensemble, qui s'intitule « Les portes de la nuit ». Et à un moment, vous avez le destin, qui est joué par Jean Villard, et qui interprète tout au long du film la rengaine des feuilles mortes. Le destin donc se rend auprès d'Yves Montand, qui est le personnage principal du film, et lui dit la chose suivante: si Napoléon n'était pas mort à Sainte-Hélène, peut-être n'aurait-il jamais vu le jour à Ajaccio. Voilà, c'est une manière de raconter l'histoire à l'envers, et de se demander effectivement, pour en revenir à votre question, par où elle commence. À Ajaccio, disent tous les turiféraires d'un Napoléon qu'ils envisagent comme étant essentiellement corse. Bon, je ne veux pas me fâcher avec les Corses, encore que je me rende très rarement dans l'île, donc je ne risque pas grand-chose. Mais bien sûr, Napoléon était corse, mais lui-même, il a toujours minoré ou relativisé l'importance que les autres accordaient à ses origines. Et quand on demandait à Napoléon quand il était véritablement né, en quelque sorte, quand son histoire avait vraiment commencé, et il répondait systématiquement « Brumaire ». Et c'est par ce moment-là, par ce coup de force, que Napoléon, enfin qu'on appelle encore à l'époque Bonaparte, accède à une forme d'existence. Il s'invente lui-même de manière un peu héroïque, souveraine. Et comme je le dis dans le livre, on se trompe totalement, à mon sens, lorsqu'on veut faire de Napoléon quelqu'un qui aurait exalté une certaine idée de l'identité nationale en termes d'origine, en termes d'enracinement. Non, Napoléon est vraiment un fils de la Révolution, c'est-à-dire il pense qu'on devient français parce qu'on le veut, et c'est la volonté, plus que les déterminations liées à la naissance, qui compte dans ce domaine-là.
Ce qui compte aussi, c'est sa formation, et notamment à Brienne. C'est là qu'il devient, enfin, c'est ce que vous racontez dans le livre, hein, c'est un peu là qu'il commence justement à devenir Bonaparte.
Oui, mais en tout cas, c'est là-dessus qu'il insiste. Il dit « Je ne suis pas corse, j'ai vécu seulement les premières années de ma vie en Corse, c'est en France que j'ai acquis l'éducation qui a fait en partie de moi, dit-il, ce que je suis devenu. » Alors après, il y a toutes sortes de légendes, bien sûr, qui se sont développées dans la célèbre, et celle qui concerne la fameuse bataille de Boule de Neige qui aurait été livrée par Napoléon et ses camarades. Voilà, Napoléon riait de tout cela, parce que Napoléon, et c'est ce qui le rend sympathique, je trouve, en dépit des nombreux reproches qu'on peut également lui adresser, des nombreuses critiques qu'on peut lui faire, Napoléon est quelqu'un qui n'était pas absolument pas dupe de sa propre légende, me semble-t-il, un peu mégalomane, mais il ne se prenait pas pour Napoléon, à la différence de bien d'autres qui sont venus après lui.
Et vous, Philippe Forest, aussi l'écrivain et le romancier que vous êtes, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous conservez, à part évidemment ce livre, de ce personnage de Napoléon ?
Ah ben, ce qui me séduit, mais là encore, la position que j'exprime n'est pas très originale, hein, c'est ce que Napoléon nous dit de ce que c'est que le destin d'un homme. Il y a véritablement chez Napoléon, du début à la fin, une méditation sur cette énigme du destin. Comment devient-on ce que l'on est, comment parvient-on au sommet, et comment désire-t-on peut-être inconsciemment ou pas la chute à laquelle on aboutit. C'est une formidable méditation sur la condition humaine, portée en quelque sorte à son paroxysme. Donc, à Napoléon le disait lui-même, hein, à Sainte-Hélène, encore que la citation soit peut-être apocryphe, quel roman pourtant que ma vie. Voilà, toute vie. Et ça, puisque vous m'interrogez en tant que romancier, c'est quelque chose à quoi j'ai souvent été amené à réfléchir à travers mes propres livres. Toute vie n'existe que sous la forme que lui donne le roman que chacun d'entre nous lui donne, avec ces mêmes questions de la fin, du commencement, du sens, de la manière dont un récit se raconte. Bon, tout ça, bien sûr, concerne dans ce livre Napoléon, mais a sens, fait sens pour moi par rapport aux autres livres que j'ai pu écrire précédemment.
Toute vie n'existe que par le roman. Merci beaucoup, Philippe Forest. Bientôt Merci. La fin de la pandémie. À vous, les cavalcades impériales et les reconstitutions de batailles sabre-clair. Merci beaucoup. On se souvient qu'autrefois, dans les paquebots et les cargos, de magnifiques transmetteurs d'ordre en cuivre faisaient résonner les instructions de la passerelle jusqu'aux entrailles du navire. Comme chaque semaine en fin d'émission, un message parvient jusqu'à notre salle des machines pour partager une expérience d'écriture. Aujourd'hui, c'est Wynka Van Eyck, dont le roman de ferveur mélancolique « Des kilomètres à la ronde » paraît aux éditions du Seuil.
Allô ? Allô ? Salut les gars, vous devez être sortis faire un tour. Ça fait bizarre de me laisser ce message, ça fait un bail quoi. En fait, je voulais vous prévenir, voilà, j'ai écrit un livre, ça parle de vous. Enfin de nous, de nous avant, je veux dire. Je voulais témoigner de ce que c'était que de passer sa jeunesse dans un de ces patelins paumés en France. J'ai repensé à tous ces étés qu'on avait traînés ensemble et tous mes revenus. Comme je vous trouvais beau et libre et un peu dingue, et comme j'avais été amoureuse de Jimmy et comme j'ai passé du temps à vous suivre et à vous regarder. Ces années-là, on pourrait juste s'en souvenir en écoutant la bande-son de l'époque et en se marrant de tout ce qu'on a inventé pour se sentir vivant. Mais bon, moi je suis partie, la bande elle a été bien décimée. Et je crois que cette violence, on n'a pas vu arriver. On a cru que c'était pas de chance alors que c'était partout pareil. J'ai compris plus tard que derrière les kilomètres qu'on faisait pour tuer l'ennui, il y avait un beau gâchis. Peut-être que pour ouvrir l'horizon, il aurait fallu ne pas se sentir hors course dès le départ. C'est devenu la grande métaphore du livre, tourner en rond sur les routes et dans la vie et finir par avoir la nostalgie d'un futur qui aurait pu s'écrire autrement. Enfin, tout ça c'est des grands mots. Je crois que j'avais surtout envie d'entendre à nouveau le bruit des mobilettes et qu'avec ce livre, j'ai espéré le faire résonner un peu plus loin et un peu autrement aussi. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et sinon, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse.
C'était la salle des machines. Un grand merci à Céline Leclerc, à Agnès Catou, notre réalisatrice, avec Marie-Claire Oumabadi à la technique aujourd'hui. Dimanche prochain arrivera vite, mais d'ici là, réécoutez les épisodes précédents sur franceculture.fr ou podcastez la salle des machines sur l'application de Radio France.